Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. À l'approche de la présidentielle, c'est un livre qui tombe à pic tant il exhale le parfum de l'époque. Un portrait corrosif et glaçant de la France d'en haut, celle des politiques, des grands patrons, des financiers, des stars des médias sortis du même moule et qui se partagent les mêmes salons, les mêmes réseaux, les mêmes calculs. Il y est question de consanguinité, de trahison, de lutte de pouvoir et de narcissisme, mais surtout de pouvoir et de politique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. De 17h jusqu'à minuit passé, un homme et une femme qui se ressemblent un peu, mais qui s'opposent souvent, refont la France et la République, y compris la République des Lettres, le temps d'une courte pérégrination parisienne du Faubourg Saint-Honoré à la place de la Concorde, en passant par celle des Pyramides, où trône la célèbre statue de Jeanne d'Arc. Les Républicains de Cécile Gilbert est paru chez Grasset, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Cécile Gilbert.
Bonjour.
Ça fait 30 ans que vos deux personnages principaux ne se sont pas revus. Ils étaient ensemble à Sciences Po, promo 86, section service public, la plus prestigieuse. À l'époque, ils se sont embrassés. Ça s'est arrêté là. Il y a un petit goût d'inachevé entre eux.
Oui, mais enfin, vous savez, quand 30 ans sont passés, on est passé soi-même à travers diverses existences. Donc, si vous voulez, on est à la fois le même et un autre, et on a l'impression d'être comme les chats, d'avoir vécu des existences successives. Puis d'abord, on ne sait pas tout de suite au début qu'ils se sont embrassés, on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre eux, à vrai dire.
Oui, bon, en tout cas, elle n'a pas trop changé sur un plan, c'est que c'est toujours la fille en noir.
Oui.
Ça n'a pas changé, c'est le surnom qu'on lui a donné à l'époque, mais il est donc toujours d'actualité. Entre-temps, depuis 30 ans, elle a écrit pas mal de livres, essentiellement des essais sur Swift, sur Duchamp, sur le cardinal de Ray. Elle n'est pas si médiatisée que ça, mais elle a une petite reconnaissance, on va dire, dans le monde des lettres. Elle a le regard un peu noir, elle a pas toujours l'air de très bonne humeur, elle a une voix assez grave. Ça démarre un peu comme une autofiction.
Ça démarre complètement comme une autofiction, en fait, hein, même si c'est évidemment un roman totalement imaginaire et que le personnage masculin est totalement imaginaire. Quoique beaucoup imaginent ces jours-ci qu'il s'agit de quelqu'un de réel, mais
oui.
C'est pas du tout le cas.
C'est pas un roman à clé.
Non, c'est pas un roman à clé, mais il y a quelques clés quand même dans le livre. Oui, ça démarre comme une autofiction, car effectivement, il y a quelques années de ça, à la suite de la parution d'un livre d'Ariane Chemin qui s'appelait La Promo, consacré à certaines stars de la promo 86, j'ai été invité, comme mes anciens condisciples, à participer à une émission d'Ardisson, qui s'appelait 93 Faubourg Saint-Honoré.
Et c'est comme ça que démarre le livre.
Et c'est comme ça que démarre le livre, car il y avait dans notre promotion des gens qui étaient devenus célèbres, dont évidemment des politiques. Il y avait Copé, il y avait Fuchs, plus dans l'ombre, il y avait Bec Bédé, devenu écrivain, il y avait Isabelle Giordano, journaliste, bon, Frigide Barjot. Et moi, je m'étais toujours étonné parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout connu. J'avais commencé à écrire, mais j'étais quand même invité à cette émission. Et je m'étais dit, tiens donc, et pourquoi? Et en fait, je venais de publier un livre sur Guy Debord. Et je me disais, c'est curieux, donc le spectacle, en fait, ne supporte pas que quelqu'un prétende s'en extérioriser. Donc, je pense que Ardisson m'a invité pour ça.
Ouais.
et ça m'a beaucoup amusé, cette émission, mais bon, qui était pas fondamentale.
Mais c'est pas à ce moment-là qu'est né le roman.
Pas du tout, si vous voulez, le roman. Mais en fait, le roman, j'aurais pu l'écrire beaucoup plus tôt. J'aurais pu l'écrire il y a 10 ans. Pourquoi pas? Après tout, ces gens étaient à l'assaut du pouvoir ou dans les sphères du pouvoir depuis quasiment la sortie de l'école. Mais en fait, j'ai voulu l'écrire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, 30 ans, c'était effectivement le temps qui me semblait pertinent pour expliquer un certain nombre de mutations dans la société.
Alors, elle, c'est donc la fille en noir et lui, c'est Guillaume Fronsac. Alors, on se rend compte au fil des pages qu'il est un peu moins caricatural qu'on peut le penser de prime abord. On peut dire, pour faire simple, que c'est une sorte de produit standard de la méritocratie républicaine.
Standard, c'est un peu méchant, parce qu'en fait, la méritocratie républicaine, elle a quand même sa valeur. Après tout, les gens, j'aime pas tellement entendre dire, je l'ai entendu dire dans des romans récents, que après tout, tous ces gens qui étaient sortis des grandes écoles avec des cuillères en argent dans la bouche. Non, sortir d'une grande école, c'est pas avoir une cuillère d'argent dans la bouche. On peut être aussi, par ailleurs, un héritier d'une grande famille parisienne, ça
peut
c'est
arriver,
autre chose.
Oui.
Mais si vous voulez, il faut quand même passer des concours, il faut quand même les réussir. Bon, donc il est un produit de la méritocratie républicaine puisqu'il est normalien et énarque, mais il illustre quelque chose qui est, à mon avis, qui se passe depuis effectivement une trentaine d'années, qui se passait pas à l'après-guerre quand l'ENA a été créée, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans la haute administration, mais qui très vite en fait s'en sert comme d'un tremplin pour aller pantoufler dans le privé, ouais. Et faire des allers-retours finalement.
Et donc faire de l'argent aussi.
Faire de l'argent, et puis surtout pas faire de politique, être dans des lieux de pouvoir, c'est-à-dire faire un travail entre le cabinet et, si vous voulez, les conseils d'administration des grandes entreprises ou les banques, etc. Et c'est-à-dire pas vraiment être au service de l'État, mais À vrai dire, c'est surtout le produit de cette collusion qui s'est créée entre la haute administration et le capitalisme français qui a muté d'une certaine façon aussi, qui est devenu complètement consanguin avec ce milieu-là. Donc il illustre bien ça.
Oui, alors effectivement, c'est un personnage brillant, un homme de réseau, hein, vous l'avez expliqué à l'instant. Il est passé donc par une banque, la banque Lazare, et le Pygmalion, c'est à la main, hein, si vous le dites au détour.
Bah c'est le Pygmalion de tout le monde, à vrai dire.
Au détour d'une phrase. Alors, on pourrait dire qu'il est opportuniste, parce qu'il a toujours choisi justement ses réseaux, il a toujours su se mettre à l'ombre des bonnes personnes, à l'ombre des puissants, mais lui, il a plutôt le sentiment, finalement, d'avoir servi l'État, d'une certaine façon, l'intérêt du pays, en tout cas.
Je ne sais pas s'il a vraiment l'impression. Il s'inquiète quand même beaucoup de l'état du pays. Hein. Il pourrait dire l'état du pays me désole. Mais ceci étant, il fait. Alors, ce qui est curieux, si vous voulez, c'est qu'il était d'extrême gauche dans sa jeunesse. Il a été fabusien parce que Fabius, à un moment, a incarné la modernité entre guillemets de la gauche, dont beaucoup se sont demandé après si c'était toujours la gauche. Mais c'est un vaste débat, si vous voulez. En fait, il illustre ce louvoiement dans l'effondrement du clivage droite-gauche, en fait, hein, et surtout après, à partir du deuxième septennat de Mitterrand.
Voilà, il est même conseiller du Premier ministre de droite, voilà. Dans Balladur.
Exactement, parce qu'il a fallu à un moment, quand Balladur, avant d'être Premier ministre, a été ministre de l'économie, des privatisations, etc., il fallait quand même quelques fonctionnaires qui connaissent la tuyauterie financière, et donc il est rentré au cabinet de Balladur, et puis après, bon...
Sans se poser de questions par rapport à ses engagements passés.
Bah pas trop, il a une famille.
Faut bien qu'il vive,
voilà.
Quoi.
Oui,
quel pauvre homme. Alors en plus, il est atteint d'une maladie, hein, Cécile Guilbert. Alors cette maladie, ça porte un nom latin, ça s'appelle, vous l'appelez la libido dominandi.
La libido dominandi, en fait, c'est tout ce qui anime beaucoup de gens de pouvoir. C'est-à-dire que, oui, j'ai connu des anciens camarades. Et moi-même, j'ai préparé l'ENA, donc j'ai voulu aussi servir l'État. J'ai trouvé que c'était, même si je pensais que c'était bien pour écrire, parce que je pensais qu'on pouvait pas vivre de ses droits d'auteur. Donc j'ai fait surtout l'ENA pour ça, pour avoir un job et pouvoir écrire tranquillement en ayant un job. Bon, j'ai raté l'ENA. Lui, la libido dominandi, c'est effectivement, d'abord au début, il y a le désir de servir l'État. Et puis après, il y a cette espèce d'engrenage très confortable parce que, encore une fois, on peut pas, si vous voulez, je me mets pas du tout dans un rôle de procureur ou de distributeur de bons ou de mauvais points dans ce livre, ni dans la vie d'ailleurs. Mais je pense qu'en France, on a des standards du pouvoir qui sont quand même monarchistes. Il y a culturellement en France quelque chose qui pousse aux prébendes, qui pousse aux privilèges, à pas tellement de vertus, etc. Moi, je crois pas du tout qu'une société sans corruption est possible. Je pense même que c'est un certain liant dans les rouages sociaux. Il faut pas rêver, hein. On n'est pas, évidemment, il y en a beaucoup trop.
Oui.
La France est un pays beaucoup trop corrompu. Il y a des privilèges qui ne sont plus acceptables. Il y a eu des mutations aussi, culturelles aussi dans l'esprit des citoyens, etc. Et donc, il y a des choses qui ne le sont plus. Mais on vit quand même dans un monde qui s'est glissé avec merveille et délice dans, les cadres de l'ancien régime. Et cette foutue monarchie républicaine dont on parle tout le temps, elle a servi à ça. Et c'est très difficile d'extirper ces habitudes.
Mais tous ces défauts-là, tous ces travers-là, il en est bien conscient, hein, votre personnage, Guillaume Fronsac, qui critique le système et en même temps, il en profite un peu. Alors, il y a deux façons d'analyser ça. On peut dire que c'est un cynique absolu, mais on peut dire aussi qu'il n'est pas dupe, au fond.
Qu'est-ce
que vous choisissez entre les deux?
Je pense qu'il est effectivement cynique. Bien sûr qu'il est cynique. En plus, il a lui-même consacré un ouvrage à Machiavel. Parce qu'il est piqué de cette maladie d'écrire comme tout le monde.
Alors Machiavel, c'est évidemment le maître à penser de tous les étudiants de Sciences Po. Hein, le lion et le renard qui sont sur le portail de la rue Saint-Guillaume.
Donc il n'est pas très original de ce point de vue-là. Non, il est cynique, effectivement. Il se dit pragmatique, mais en fait, il est donc opportuniste.
Mais il n'aime pas la société
et comme
dans laquelle
intelligent, mais il est intelligent, donc évidemment, il est comme tous ces gens intelligents, capables de faire d'excellents diagnostics sur la situation, de là en sortir et de se faire des sacrifices de confort ou sociaux, de position sociale pour que ça aille mieux. Il n'en est pas question parce que l'âge arrivant, il est quinquagénaire, il a 4 enfants, etc. Bon, il a plus trop envie de se remuer pour ça. Ceci étant, il essaye quand même de séduire celle que j'appelle la fille en noir par une sorte de discours, parce que comme il est intelligent, il sait très bien qu'une révolution, pas une révolution au sens classique du terme ou au sens qu'on a connu, mais une révolution démocratique est nécessaire. Il le sait, il le sent.
Il faut que ça change.
Faudra que c'est bien que ça change un jour.
Alors effectivement, ils sont donc tous les deux, hein, de bar en bar dans ce quartier autour du jardin des Tuileries. Et comme beaucoup de gens issus de cette prestigieuse école parisienne, et j'en sais quelque chose, eh bien, ils aiment refaire le monde. Et c'est ce qu'ils font. Donc ce soir-là, à Paris, nous sommes page 60 de votre livre.
Tu pensais, toi, que ces fausses confidences et autres secrets de Polichinelle n'étaient à vrai dire nullement confidentiels, plutôt le menu fretin d'une chronique régulière de petits faits d'armes issus de clans et de cercles qui étaient toujours curieux à savoir, souvent d'un grand usage pour les gens qui voulaient se mêler du monde, c'est-à-dire de l'immonde, et très utile aux citoyens d'une démocratie moderne. Or, le paradoxe, c'était que cette théorie de brigue et d'intrigue divulguée depuis des décennies dans les livres de journalistes, se croyant dans le secret des dieux par la grâce du off, ce picotin qu'une presse majoritairement servile ramassait à la table des puissants qui s'en achetaient ainsi les complaisances avant de le jeter dans la mangeoire des électeurs qui, à leur tour, s'en gavaient, hoquetaient un peu et digéraient, n'avait jamais rien changé. Ayant une bonne mémoire, tu connaissais presque par cœur cette saga qui avait débuté par le bon vieux « Il était une fois » quand tu avais un peu plus de 20 ans et qui n'avait cessé de se ramifier. C'était celle de ton milieu et de la relation de ta génération avec le pouvoir, éparpillée dans tous les pouvoirs et aux manettes. Milieu et génération, étrangers à ton vocabulaire. Mais qu'est-ce que la société sinon la main de fer de l'assignation et de la sommation ? Alors oui, cette histoire à laquelle tu aurais pu prétendre et que tu avais fui par amour de la liberté, par amour de l'amour et du loisir studieux troué de paresse qui, même si tu devais souvent t'en détourner pour mettre du beurre dans les épinards, était toujours ton seul luxe, tu n'en partageais ni les conquêtes ni les affres, pas les conforts non plus, certes, mais tu la connaissais par la bande, c'était le cas de le dire. À ce titre, elle avait beau être à la fois vieille comme le monde et inédite, tour à tour passionnante et méprisable, elle ne cessait de parasiter ton existence. Semblable à une comète surgie des années-lumière et diffractant ses anciens rayons au présent, cette conversation en offrait un bon exemple.
Cécile Gilbert, la fille en noir, dont on disait tout à l'heure qu'elle vous ressemblait un peu, aime les écrivains du XVIIe siècle, et on vous imagine très bien écrire ce livre sans perruque, mais la plume à la main, hein, en train de tremper cette plume dans tel ou tel acide. Et pourtant, vous dites dans le livre que, comme Flaubert, la fille en noir croit à l'exécration inconsciente du style. On a du mal à vous croire. Ou alors elle est vraiment très très inconsciente chez vous, cette exécration.
Non, l'exécration du style, elle existe chez les autres, en fait. Parce qu'on veut bien, que vous soyez un écrivain, mais enfin, je sais pas, pour un certain milieu, bon, voilà, où vous êtes un écrivain à succès, vous êtes un best-seller, mais là, vous devenez un phénomène social, mais bon, le style, tout ça. Mais en fait, le style serait intéressant parce que, justement, c'est ce que dit la fille en noir, les gens de pouvoir savent que le style est une force. Et que ce qui est imprimé dans les livres, précisément, c'est autre chose que ce qui est imprimé dans la presse ou dans les livres des journalistes. Et pourtant, ils adorent ça, les livres de journalistes, tous ces trucs qui révèlent des plus ou moins secrets de l'establishment ou des petits faits de réseau, etc.
Oui, d'ailleurs, vous écrivez « L'art de penser rythmiquement la langue a presque totalement déserté la fiction ».
Oui, parce que maintenant, je suis arrivé à un point où je pense vraiment que mérite le terme d'écrivain ceux qui font quelque chose avec la langue. Et quel que soit le genre dans lequel il s'exprime. Si vous voulez, je ne suis absolument pas pour réduire le terme d'écrivain à celui de romancier trop commode aujourd'hui. Et je dis pas ça parce que j'ai écrit très peu de romans. Si vous voulez, moi je m'en fous complètement de la question du genre. J'écris dans différents livres, ça peut être des essais, des fictions, des récits, des romans, peu importe, parce que dans un roman on peut mettre après tout aussi de l'essai, de la poésie. Enfin, si vous voulez, tous ces genres, ces questions des genres sont complètement sont devenues un peu vermoulues. La question, ouais, c'est qui écrit en français, qui fait quelque chose avec cet instrument de musique qui s'appelle le français, qui est finalement merveilleux, qui a plusieurs siècles d'existence, qui a plusieurs strates. Vous dites que j'aime le XVIIe siècle. Je ne l'aime pas seulement pour son ethos, si vous voulez, aristocratique au sens de l'éthique, hein, pas de l'honneur, d'une forme de noblesse, pas du tout de la classe sociale, c'est pas ça ce que je veux dire, mais cette espèce de tension de la langue qui existe à cette époque, qui est très belle, qui est assez simple en fait, qui est nette,
et qui fait partie aussi d'une certaine façon de la construction de la France, de la construction de presque de l'identité française, même si le mot est peut-être pas tout à fait juste.
Oui, moi je prends à mon compte ce terme d'identité française. Autant l'identité nationale me semble un vocable qui sujet à caution, surtout dans la bouche de ceux qui l'emploient aujourd'hui, autant le terme d'identité française vient de ce fait ultra français, éminemment français, qui consiste à s'interroger sur son histoire à travers ses grands textes. Et ces grands hommes étant précisément, ou des hommes d'État, ou des hommes de cabinet, ou des hommes politiques, ou des conseillers qui sont passés à l'écriture, et vice-versa. Et si vous voulez, c'est pour ça que la France est ce pays où finalement, bon, à part à partir du 19e siècle, où la profession d'écrivain devient une profession, précisément, ouais, avec Chateaubriand, Hugo, etc., mais où la plupart de nos grands hommes de plumes et de grands livres n'ont pas été des écrivains professionnels, ont été des courtisans, des conseillers, ont été plus ou moins séditieux comme le cardinal de Retz, etc. Donc ça, c'est quand même complètement unique au monde.
Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est les hommes politiques, les dirigeants, y compris les patrons, qui pour exister dans le petit milieu que vous décrivez, ont besoin de publier.
Bah, je crois que ça, c'est aussi valable depuis toujours. C'est-à-dire que tous les hommes de pouvoir en France ont voulu aussi mettre la main à la pâte sur la chose littéraire. Même sous la Troisième République, il y en avait beaucoup. Des gens même très talentueux. Un homme comme Clémenceau, par exemple, a écrit magnifiquement.
Remarquable.
Bon, il y a que De Gaulle qui est rentré dans la Pléiade, après tout. Mais si vous voulez, il y a toujours eu cette tension. Et Mitterrand était aussi un auteur. Et finalement, on découvre aujourd'hui que Mitterrand était bien plus un écrivain par ses lettres d'amour à Anne, comme on dit, que peut-être par ses livres politiques proprement dit, mais il y a ce désir effectivement d'exceller dans la langue.
Alors vous critiquez la République tout court, vous critiquez aussi la République des lettres. D'ailleurs, il y a une scène qui est très très drôle, c'est qu'elle est dans un bar, hein, votre fille en noir, elle veut attraper un livre et elle se rend compte que c'est un faux livre, quoi.
Oui, c'est une
ça
déco.
Ça en dit très long, ça, sur l'époque le milieu.
C'est une déco, absolument. Mais en fait, pardon, je vous reprends une minute, c'est que je ne critique pas la République.
Pas la République dans son essence son idéal, mais la façon dont, au quotidien, on la sert.
Je critique effectivement l'effondrement symbolique qui nous a été servi, disons, depuis une dizaine d'années. Au sommet de l'État. Oui, ça, je critique ça, mais en fait, ça va aussi avec un effondrement symbolique qui concerne toute la société. Il n'y a pas que les dirigeants, hein. C'est des questions de langage, c'est des questions esthétiques, c'est des questions symboliques, la façon dont on commémore, la façon dont on se souvient, etc., etc.
Cécile Guilbert, est-ce que c'est réellement une fiction politique que vous avez écrit là? Parce que, c'est aussi, alors je sais que vous aimez pas le mot génération. Mais c'est aussi, je crois, une critique aussi justement d'une forme de désillusion finalement des gens qui aujourd'hui nous dirigent et des gens qui aujourd'hui sont aux manettes du pays, pas forcément manettes politiques d'ailleurs.
Forcément, il y a de la désillusion, il y a de la déception par rapport effectivement à la façon dont les choses se passent, s'énoncent, se vivent, la vibration esthétique, langagière. Bon, tout ça est vrai, mais en fait, je ne crois pas que ça soit une fiction politique. Finalement, c'est ce que je croyais avoir fait, mais en fait, je m'aperçois que c'est pas ça. C'est un livre sur le désir. C'est un livre, il y a un suspense amoureux, il ne faut pas le perdre de vue, même si ces deux individus conversent beaucoup sur la politique, ils conversent aussi sur leur vie privée. Cet homme qui rentre chez lui s'interroge aussi sur l'avenir de ses enfants, sur l'état de la société. Était certes, mais aussi sur son mariage, la femme en noir aussi, qui s'est mariée, qui est amoureuse de son mari, qui n'a pas d'enfant. Il y a aussi des choix de vie. Il y a quelque chose de romanesque là-dedans, forcément, puisque ça se passe comme ça dans une soirée, et après tout, dans la nuit parisienne.
Oui, et ça se termine par, on va pas raconter évidemment la fin, mais ça se termine par une forme de respiration, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on était un peu dans l'étouffement, et puis les deux derniers chapitres du livre, il y a effectivement beaucoup de questionnements, beaucoup de questions, mais il y a quand même une forme, oui, d'espoir, une forme d'oxygène qui arrive au personnage.
Oui, tout à fait, parce que le désir est toujours là, et que même si le pays s'effondre, et même si nos élites ont failli, et même si nos prétendants, nos canassons à l'élection présidentielle ne sont pas mirobolants, si vous voulez, dans la vie privée, il y a toujours l'amour, il y a toujours la beauté, il y a toujours... Et c'est pas le repli simplement sur le petit jardin privé sans s'occuper des autres, mais je pense d'abord que si chacun dans sa vie était... épanoui, heureux, et faisait des choses qui semblent justes et qui lui semblent justes à chacun, peut-être que les Français seraient moins déclinistes aussi.
Cécile Guilbert, on va marquer une courte pause, on va écouter les dernières nouvelles du monde et on va se retrouver avec vous et avec le journaliste Nicolas Framont du magazine Frustration, c'est le titre, dont le dernier numéro est justement consacré aux élites qui, on l'a compris, vous ont beaucoup intéressé pour écrire ce roman Les Républicains, paru, on le rappelle, aux éditions Grasset. À tout de suite, et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles, Jean-François Cadet.
Toujours avec Cécile Gilbert qui publie Les Républicains chez Grasset, rien à voir avec le parti politique qui s'est baptisé ainsi le 30 mai 2015. Quoique, Cécile Gilbert, puisqu'en épigraphe, il y a cette citation de Nicolas Sarkozy, hein, ce que les journalistes appellent un off, c'est-à-dire une phrase qui n'est pas destinée au départ à être rendue publique. C'est une phrase étrange. Je vous la livre telle quelle. Quand on est au bas de l'échelle sociale, Balzac, ça pulse. Pourquoi vous avez choisi cette phrase-là? Comment vous l'avez trouvée déjà?
Je l'ai trouvé en fait dans un article du Monde où il était question d'un discours de Sarkozy où il avait dit ça, et donc quand j'ai voulu me reporter au discours en question, cette phrase n'y figurait plus, donc j'ai déduit qu'il l'avait dit en off. Et je trouve cette phrase merveilleuse, quand on est au bas de l'échelle sociale, Balzac ça pulse, parce que le ça pulse effectivement, bon, c'est très sarkozien dans cette espèce de relâchement de langage, mais en même temps, il y a quelque chose de vrai, c'est à savoir que je m'en suis rendu compte en écrivant mon livre, c'est que dès qu'on voulait parler du pouvoir de Paris, puisqu'on va, on est quand même un pays très jacobin et tout se passe beaucoup à Paris, de l'ambition, etc., on était toujours dans un cadre balzacien finalement, post-balzacien, néo-balzacien, tout ce qu'on veut, mais Balzac a fixé une bonne fois pour toutes le modèle et on n'en échappe pas, puisque la France est précisément toujours dans une espèce de période dans les têtes de restauration ou de, et ça, on bouge pas de ce mentalement de ce cadre-là.
Et puis l'autre citation en exergue, vous l'avez tirée du feuilleton à succès Game of Thrones.
Oui.
Vous avez l'impression de vivre un feuilleton en ce moment?
Bah, le feuilleton, disons qu'on le vit depuis 40 ans, puisqu'on a toujours les mêmes, à part quelques godelureaux récents, on a toujours les mêmes prétendants au trône. Donc, si vous voulez, ils font partie d'un feuilleton que la France se raconte. Et d'ailleurs, j'ai vu hier que Gérard Courtois, qui publie un livre sur les campagnes électorales, parle d'un feuilleton. Ça m'a beaucoup frappé. Il y a un storytelling permanent autour de ces candidats et qui s'invitent dans nos chaumières à travers les écrans et qu'on a l'impression de voir depuis toujours. Donc, effectivement, il y a une dimension de feuilleton et je pense que les gens sont très intéressés par les feuilletons et les séries politiques. J'en parle aussi dans mon livre, à mesure que justement les choses leur échappent et qu'ils ont l'impression d'être dans le secret des dieux grâce à des séries, mais qu'en fait ces séries sont le symptôme, par l'intérêt qu'elles suscitent, si vous voulez, d'un dessaisissement de toutes ces choses sur lesquelles ils n'ont plus prise.
Bonjour Nicolas Framont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes aussi co-rédacteur en chef de la revue Frustration. Alors Frustration, drôle de titre déjà, vous pouvez nous donner une explication?
Alors oui, Frustration.
C'est au singulier.
Ouais, on voulait partir du sentiment qu'on pouvait ressentir dans le contexte politique et social actuel, c'est-à-dire le sentiment, on est à la fois dans une société, vous voyez, qui affiche quand même liberté, égalité, fraternité au fronton de ses mairies, et ce qui se passe est souvent à l'inverse. On est une société qui s'affiche comme démocratique, mais en fait qui fonctionne de manière beaucoup plus oligarchique, comme on l'a vu en première partie d'émission. Donc la frustration, c'est ce sentiment vraiment très individuel que nous, on voulait exploiter de manière à lui proposer un contenu collectif.
Donc partager votre frustration.
Voilà, on partage notre frustration, mais en même temps, on n'a pas peur de la nommer. D'où le titre un peu dur, mais qui en même temps nous semblait nécessaire.
Alors c'est un trimestriel, il existe depuis 2013, mais là, cette semaine, vous passez pour la première fois en kiosque, ça veut dire que c'est un journal qui passe dans une autre dimension.
Tout à fait, oui. On passe de 400 exemplaires à 10 000 exemplaires, donc évidemment ça change tout. Voilà
4,90 €, hein. C'est ça. Donc pour un trimestriel. Et cette semaine, vous sortez donc pour ce premier numéro en kiosque avec François Fillon. À la une, un dessin signé Benjamin Hainaut, hein, qui présente François Fillon, je le décris, en train de se dessiner des cernes sous les yeux avec du caviar. Chacun aura compris, évidemment, mais le titre de une et le dossier, il s'intitule « Les élites en campagne ». Les élites, qui on l'a compris, en prennent un petit peu pour leur grade, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le livre de Cécile Gilbert. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu, évidemment, depuis le début de cette émission. Est-ce que vous portez sur ces élites un regard similaire?
Alors oui, j'y ai trouvé pas mal d'échos à ce qu'on peut décrire, si ce n'est que dans le livre, il y a cette espèce il y a une compréhension intérieure, ce sentiment de libido, ce désir par rapport au pouvoir, donc qui est très instructif. Nous, évidemment, on regarde les élites de façon plus extérieure, c'est-à-dire de ce qu'elles font au reste de la population, de la manière...
Vous placez du point de vue du citoyen.
Oui, voilà, nous, on essaie vraiment de se placer du point de vue du citoyen, qu'on est effectivement, hein, nous, on a pour point commun, par exemple, de pas être parisien, d'être arrivé à Paris plus tard, on n'a pas fait de grandes écoles. Du coup, on découvre cette réalité. Moi, ce genre de livre me fait encore plus découvrir la réalité et me fait dire que les choses sont encore pires que ce que je pouvais imaginer en réalité.
Ah oui.
Vraiment, ça m'alarme encore plus. Je me dis que vraiment, ce sentiment de dépossession, il est justifié et ce genre de livre est très instructif pour ça. Nous, voilà, on a essayé de dresser un panorama de c'est quoi les effets, du coup, de cette consanguinité des élites sur notre vie politique.
Alors, la critique des élites, elle est partout quand même, Cécile Gilbert. Et notamment, d'ailleurs, les élites elles-mêmes n'arrêtent pas de gloser, de faire des colloques sur la crise des élites, que ce soit les élites politiques, culturelles, intellectuelles, médiatiques aussi. Et en même temps, personne ne se remet réellement en cause.
Si vous voulez, moi je veux protester contre ce fourre-tout des élites, si vous voulez. C'est que effectivement une partie des élites, celles dont je parle, qui sont ces élites gouvernantes du pouvoir, une partie effectivement des gens de cabinet qui vont pantoufler dans le privé, qui reviennent, etc. Là, je pense qu'il y a une vraie si vous voulez, là, il y a une forme effectivement d'entre-soi et d'impunité et de certitude de rebondir quoi qu'il arrive, si vous voulez, qui mérite peut-être effectivement critique. Mais moi, je ne mets pas toutes les élites dans le même sac. C'est que les élites d'un pays, ce sont aussi ces grands scientifiques, ces grands intellectuels, des grands citoyens, des résistants, des gens qui réfléchissent. Et toutes les élites n'ont pas failli. Donc, il faut bien prendre ce terme. Je suis pas pour ce, si vous voulez, cette façon qu'ont certains partis. Je n'aime pas les appeler populistes non plus parce que oui. Je pense que c'est un repoussoir trop commode pour ceux qui emploient ce terme. Mais certains,
il est dans
certains
le livre, partis, mais vous l'avez mis en italique. Le
oui, je l'ai mis en italique, hein, parce que si on prend un Jean-Luc Mélenchon ou un Marine Le Pen, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On les met toutes, l'establishment les met dans ce même sac de populistes. Et si vous voulez, eux-mêmes, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ont ce défaut, selon moi, parfois, de mettre toutes les élites dans le même sac. Je sais bien que Jean-Luc Mélenchon est plus intelligent que ça et que donc peut-être dans son esprit, c'est pas ça. Mais à mon avis, il désigne la même chose que moi quand je parle de cette élite, si vous voulez, administrative ou politique, consanguine avec le capitalisme financier. C'est tout, voilà.
Alors, dénoncer le système, hein, c'est un peu à la mode aussi, Nicolas Framont, depuis le début de cette campagne électorale. Tout le monde dénonce le système.
Exactement, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu faire dans notre dossier sur, finalement, c'est quoi les élites au pouvoir. On part de ce constat, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tout le monde dénonce les élites, hein, comme vous dites, y compris, on a ouvert notre article sur l'élite au pouvoir par une citation de Nicolas Sarkozy, qui dit, voilà, cette petite élite qui ne prend jamais le métro, etc. C'est vraiment extraordinaire, il dit ça dans un de ses meetings, avec un ton d'une sincérité incroyable, alors qu'évidemment, il en fait absolument parti. Et puis par ailleurs, vous avez effectivement le discours populiste d'extrême droite, ou disons le discours d'extrême droite qui fait une sorte de fourre-tout des élites, qui est associé aux bobos, aux écrivains, etc. Nous, on a voulu ramener du sens là-dedans, c'est-à-dire qu'on fait des délimitations. C'est quoi les élites au pouvoir? Celles qui ont vraiment le pouvoir politique et économique, qui sont souvent les mêmes, et on rejoint finalement le type de personnes que vous décrivez, c'est-à-dire ce sont ces gens qui vont du privé au public, ou qui sont liés privé-public dans les mêmes cercles, etc., et qui du coup concourent à décider de la destinée de notre pays.
Et vous faites un sort particulier à Emmanuel Macron.
Oui, parce que Emmanuel Macron, c'est intéressant, il ressemble pas mal dans son parcours à votre personnage. C'est vraiment pour nous, si on dit voilà Emmanuel Macron candidat du système, c'est parce que finalement on est arrivé au nec plus ultra de cette porosité entre l'oligarchie politique et l'oligarchie économique. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a quelqu'un qui vient vraiment de l'oligarchie financière, mais qui devient un candidat, qui n'a pas eu besoin forcément d'être élu. Et en plus, pour nous, il sort vraiment le discours qui est voilà, c'est pour le coup, lui, c'est la fin du clivage droite-gauche au sein d'un même discours qui est un mélange de bons sentiments et d'impératifs gestionnaire, etc. Et du coup, forcément, il nous semble être vraiment symptomatique de ce à quoi on assiste actuellement.
Cécile Guilbert, votre personnage, Guillaume Fronsac, votera Macron ?
Je pense.
Il se ressemble un petit peu quand même, effectivement, que... par le parcours. Déjà.
Alors, pas complètement. Bon, parce que c'est vrai que vous savez que le drame d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir raté Normal Sup, même s'il prétend que non. Bon, mais mis à part ce petit détail, si vous voulez, oui, je pense qu'il votera Macron parce que d'une certaine façon, Guillaume Fronsac approuve la feuille de route des GRAC, comme on dit, ce club d'influence qui a orienté
la gauche. Oui, il y a un club d'influence de centre-gauche, plutôt d'obédience procardienne.
La social-démocratie, Jouillet, si on est méchant, on dit social-libéralisme. Oui, donc je pense qu'effectivement, il pourrait voter Macron. Oui.
Vous en parlez de Macron, hein. Je vous cite, vous dites « Macron se rêvant tout autant président de la République qu'écrivain, ne se contentait pas de ressembler à Lucien de Rubempré ou à Julien Sorel ». C'est un personnage de roman, Emmanuel Macron ?
Il incarne complètement le personnage Balzac. Quand je vous parlais tout à l'heure de Balzac, il incarne un personnage balzacien extraordinaire, une ascension fulgurante. Il était un provincial qui est monté à Paris. Ceci étant, je trouve que Macron vaut un peu plus que la caricature qu'on en fait, parce que le fait qu'il ait transgressé à une grosse habitude bourgeoise qui consistait voilà à se marier dans son milieu avec des gens de son âge, etc. Le fait qu'il ait cette transgression amoureuse, je trouve qu'il est intéressant pour ça. Je sais pas après ce que c'est, sur le plan politique, on parle d'autre chose. Oui. Si vous voulez, mais en tant qu'individu, je trouve que cette transgression qu'il a assumée le rend bien plus intéressante que ses congénères.
Alors, votre personnage, donc Fronsac, voterait Macron, et la fille en noir, elle va voter pour un candidat bien connu, mais dont on parle assez peu. Alors, je ne sais pas s'il y aura les parrainages. C'est Sade.
Oui, en fait, la fille en noir lui sort une carte postale quand tu lui demandes pour qui elle va voter. Elle s'en tire par une pirouette, elle sort une carte postale de son sac du Parti Surréaliste de Belgique où il y a écrit « Votez Sade ».
Rue de Rivoli, celle des pyramides, près des Tuileries et d'un bouillon du Var. On voit à travers le brouillard humide une statue de jeune fille à cheval. Et dans un chic pour se tenir en selle, y a pas d'erreur, c'est une gonzesse de marque. Toute sa vie, elle reste à pucelle. Il n'y en a pas lourd comme ça, c'est Jeanne d'Arc. Le croirait-on, elle n'est pas enrhumée dans ce carrefour où ce qu'il y a des courants d'air. De Gérodelle, la pastille embaumée est inutile, elle est bardée de fer.
À Jeanne d'Arc, la clique des Lunésiens sur RFI, extrait d'un album intitulé « Votez pour moi » qui regroupe des airs d'opérette et de chansons politiques sur les élections et l'art de gouverner, chanson qui date souvent du 19e siècle mais qui résonne parfois étrangement contemporain. Et il y a dans Les Républicains tout un passage, Cécile Gilbert, autour de Jeanne d'Arc et de cette statue de la fameuse place des pyramides. C'est un personnage qui suscite beaucoup de réflexions de la part de Guillaume Fronsac et un peu d'énervement aussi d'ailleurs de la façon dont il a été récupéré.
Oui, effectivement, Jeanne d'Arc est un personnage fascinant parce qu'il y a une réalité historique qui a été assez bien décryptée, je trouve, par un historien qui s'appelle Henri Guimin, qui a consacré à Jeanne d'Arc des trucs qu'on peut voir sur Internet. D'ailleurs, Henri Guimin, historien de gauche, plutôt de sensibilité chrétienne. C'est pour ça que ça rend très intéressant son analyse. Parce que Jeanne d'Arc a été trahie, effectivement, par le roi de France et par l'Église, envoyée au bûcher, et que, à partir de là, il y a toute une légende et un mythe Jeanne d'Arc en France, qui est une auberge espagnole idéologique. Tous les partis, à travers l'histoire, ont pu la récupérer, ont pu l'instrumentaliser, des monarchistes aux républicains les plus laïcs, etc. Et maintenant, elle appartient, paraît-il, au Front National. Et évidemment, Guillaume Fronsac s'en insurge, comme on peut s'en insurger, et elle appartient en fait à tous les Français, puisque elle est une figure à la fois héroïque et mythique, et donc chacun peut y prendre quelque chose. Et qu'elle soit instrumentalisée par le Front National est une chose évidemment scandaleuse, et c'est aussi pour ça que je n'en veux pas, par exemple, pour parler de Macron. Si vous voulez, quand Macron est allé parler de Jeanne d'Arc et a prononcé un discours à Orléans, tout le monde lui est tombé dessus. Mais à vrai dire, tous les hommes politiques sont allés honorer Jeanne d'Arc. Pétain, De Gaulle, Mitterrand, Ségolène, tout le monde.
Jeanne d'Arc n'est ni de droite ni de gauche.
Elle est ni de droite ni de gauche, voilà. Elle appartient à tous les Français, et en vouloir à Macron d'aller voir Jeanne d'Arc, c'est en fait continuer à autoriser le Front National à s'en réclamer exclusivement.
Bon, Jeanne d'Arc, on la croise aussi hein, dans le magazine Frustration, Nicolas Framont, auréolé, si j'ose dire, à la fois justement de la bannière du Front National et de celle du Parti communiste.
Mmh. Oui, c'est un article qui a été écrit par un youtubeur d'histoire qui s'appelle Histoni, qui critique les récupérations politiques de l'histoire. Lui, il a tendance à dire, et nous on est d'accord avec ça, que cette espèce de manière de se justifier perpétuellement en invoquant des figures historiques qui doivent forcément se retourner dans leur tombe, quelle qu'elle soit, a ses limites. C'est une manière de simplifier aussi le débat démocratique, c'est une manière de ne pas dire de ne pas parler de ce qu'on fait vraiment. C'est-à-dire que voilà, on se justifie, on se donne une trame historique à ce qu'on fait, même quand cela n'a aucun sens. Que ce soit idéologique ou politique. Et nous, on critique vraiment cette tendance-là, ce recours abusif au folklore. Et je dirais que, évidemment, que ces symboles appartiennent à tout le monde, mais c'est tout de même fatigant de voir des gens justifier leur contorsion idéologique par ce genre de récupération.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Toujours avec Cécile Gilbert qui publie Les Républicains chez Grasset et Nicolas Framont de la revue Frustration qui sort pour la première fois cette semaine en kiosque avec ce numéro consacré aux élites en campagne, avec une accusation qu'on entend souvent, hein, que ces élites seraient déconnectées de la réalité. Est-ce que c'est une accusation qui vous semble fondée, Nicolas Framont?
Alors oui, effectivement. Alors ça fait partie des choses. Nous, on essaie de voir ce qui se dit, hein, et de prendre au sérieux et de l'examiner avec les faits. Alors pour ça, on était allé voir un chauffeur de la flotte flotte de voitures de différents ministères, qui est venu un peu nous témoigner de comment cela se passait, quel type de rapport le fait d'avoir un chauffeur dans Paris fait à ces personnes. Et en fait, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir comment des petites choses comme ça, avoir un chauffeur, alors qu'on est dans une ville, par exemple, avec le réseau de métro, un des plus denses du monde, avoir un chauffeur, ça donne un certain rapport à la réalité. Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi les cercles qu'on fréquente. On en parle pas mal, mais le quartier dans lequel se déroule le livre, le 8e arrondissement, est rempli de ces différents cercles, le dîner du siècle que vous évoquez, l'union interalliée, etc., où on se retrouve entre soi et forcément on a un certain rapport à la réalité. Alors vous voyez, ceci dit, tout le monde a un rapport différent à la réalité. On est dans une société de classe, il y a des gens qui ont leur réalité à eux, qui est leur petite ville ou leur banlieue, etc., et qui ne connaissent pas le reste. Mais ce qui est problématique, c'est quand ceux qui sont censés représenter tout le monde ont la même réalité, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de se projeter dans leurs électeurs, finalement.
Alors Cécile Guibert-Fronsac, il a conscience de ça. Il dit que lui et ses amis ne savent rien de la difficulté du monde. C'est l'expression que vous avez choisie en écrivant ce livre. Mais en même temps que l'élite et le peuple, lui, il oppose Paris et la province. C'est un clivage qui est toujours si vivace que ça, aujourd'hui, dans la société française.
Bien sûr que je pense que c'est un clivage vivace, puisque en fait...
Malgré les réseaux sociaux, malgré Internet, malgré les médias.
Oui, mais si vous voulez, on pense vraiment qu'il y a cette aristocratie d'État. Enfin, je pense que beaucoup dans les... Fronsac dit les ploucs et les ruraux, et il les méprise pas en disant ça, mais c'est que les gens, souvent par désespoir, disent eux-mêmes, nous, les ploucs et les ruraux, on nous piétine. Mmh. Les zones périurbaines, enfin, toutes ces réalités mises à jour par les sociologues récemment. Et il sait bien qu'il incarne cette aristocratie d'État. Mais par exemple, pour revenir sur le fait d'être déconnecté, il n'y a pas seulement le fait que... Il y a des cercles, il y a un entre-soi, il y a des lieux qu'on fréquente, toujours les mêmes, etc. Ça, c'est une chose. Mais par exemple, quand j'entends François Fillon en invoquer exclusivement à la légalité pour justifier, par exemple, les emplois fictifs de son épouse, ça montre bien que le fait qu'il invoque la légalité montre bien qu'il est déconnecté dans la mesure où précisément cette légalité qui a été mise au point par les parlementaires pour couvrir un certain nombre de choses n'est plus comprise par le pays. Donc ça montre bien que déjà c'est une forme de hors-sol.
Alors on va écouter à présent un humoriste, il s'appelle Franck Lepage, et sur scène il décrypte les bases de la fabrication du discours politique avec à la main quelques cartons marqués d'un mot-clé qui mélange un peu tel un jeu de cartes et qui va sortir sans connaître à l'avance l'ordre de sortie des cartes. Le spectacle change donc évidemment chaque soir en fonction du hasard, c'est une forme d'improvisation devant le public. En voici donc un exemple.
Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Représentant du Conseil Général, Monsieur le Maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Et cette notion, c'est évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle, alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité, parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social, et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité, faute de quoi ? Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, il n'entraînerait, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux.
Alors, le sketch date un petit peu. Il n'a pas pris une ride, hein, Nicolas Framont. Je crois que vous le connaissiez. On est quoi? Dans la novlangue, dans la langue de bois? Ça ressemble vraiment à ça, le discours des élites?
Eh ben, regardez, vous prenez les meetings de Macron qui durent extrêmement longtemps. Vous pouvez faire le même spectacle, mélanger les cartes comme ça. On a tout. On a le projet, on a le contrat, on a le progrès. Il nous mélange tout ça. Et donc, comme c'est pour moi le nec plus ultra de la politique actuelle, on est vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire, cette langue de bois ou novlangue, qui finalement sert non pas à justifier un vide idéologique, moi je crois pas, mais à masquer finalement le projet qui est celui de cette oligarchie depuis 30 ans, qui est, de continuer les dérèglements régulation, la financiarisation d'économie, etc. Mais bon, pour faire passer tout ça, il faut trouver des mots positifs pour en parler, alors que c'est un processus qui est quand même négatif pour la majeure partie des gens.
Cécile Guilbert, est-ce que le fond du problème, c'est pas que c'est pas une crise intellectuelle finalement? Est-ce que le fond du problème, c'est pas que les élites ont du mal à trouver des solutions pertinentes et durables et à faire passer cette conviction-là aux citoyens?
Mais les élites, ça dépend de desquelles oui. on parle, si vous voulez. On pourrait estimer que...
Les intellectuels?
Les intellectuels, aussi. J'ai l'impression qu'ils sont pas très écoutés, malheureusement, par les politiques. Je me souviens que déjà, c'était un débat récent que les politiques devaient davantage écouter déjà les économistes. Déjà, c'était déjà un gros progrès que les politiques écoutent un peu les économistes, qui sont évidemment pas d'accord entre eux, parce que c'est pas une science, effectivement, exacte. Mais je pense pas tellement que les présidents récents ont vraiment été à l'écoute des intellectuels. Hein. Et pourtant, il y a des choses qui sont voilà partout, chez des sociologues, chez des anthropologues. Il y a plein de gens qui réfléchissent, il y a plein de gens qui sont plus éduqués, il y a à puiser dans la société civile. Il y a aussi, je pense sans doute, à déprofessionnaliser la politique au sens des énarques et des politiciens et apparatchiks professionnels. Je pense que beaucoup de gens ont envie de s'engager. Évidemment, ils savent pas trop comment le faire, j'ai l'impression que tout...